André Limbouchimaï, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Les Nations Unies ont donné mercredi à la RDC une dernière semaine pour agir contre les soldats de deux bataillons des FRDC accusés d'avoir commis au moins 126 viols en novembre dernier. Soulignons que cet ultimatum a été lancé par le chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsous, lors d'une réunion à New York avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Parole aux auditeurs vous donne l'occasion aujourd'hui de commenter sur cette actualité avec comme question principale que vous inspire cet ultimatum. Composez le 081 890 43 39 pour participer à ce débat ou encore le 081 890 63 15. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiokapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Titi Poutou, à Pierre Lamégie ainsi qu'à Paul Badianiam pour la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs et fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Gisèle Mouéou, magistrat du parquet, bonjour.
Bonjour, M. J.R.
Voilà, nous vous avons associé à ce débat. D'abord, comme vous l'avez suivi avec nous, les Nations Unies ont donné mercredi à la RDC une dernière semaine pour agir contre les soldats de deux bataillons des FRDC accusés d'avoir commis au moins 126 viols en novembre dernier. Alors, que peut nous inspirer cet ultimatum?
Oui, merci pour m'avoir associé à cette réflexion. Il est vrai que notre point de vue restera toujours dans les limites des dispositions légales par rapport aux infractions contre les violences sexuelles. Et vous souviendrez que la RDC a dû en 2006, je crois, vous a dû en 2006, oui. Prendre le législateur congolais a dû légiférer en cette matière. Et en dehors de l'ordonnance, en dehors de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant le code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour, une autre loi avait été prise dans la même, dans le même esprit, c'est celle en rapport avec les dispositions du code de procédure pénale qui étaient modifiées. Et en prenant ces dispositions légales, vous trouverez que toutes les fois qu'il sera question de poursuivre les coupables des infractions de viol, ces coupables, il y a un timing que le législateur a dû mettre ou a demandé qu'il soit respecté, c'est le temps et de l'instruction préjudicielle et de l'instruction judiciaire, qui ne peut pas aller au-delà de 3 mois. Donc si nous restons dans le timing tel que prévu par le législateur en ce qui concerne les dispositions qui ont modifié le code de procédure pénale, en cette matière, en ce qui concerne les infractions contre les violences, nous trouvons qu'il est à cause les auteurs de ces différentes violations des droits de l'homme, et surtout par rapport avec les infractions contre les violences sexuelles, auraient dû déjà, à cet instant, être déférés devant les cours et tribunaux. Et le souhait serait...
Voilà, Justine, si vous pouvez peut-être changer de position, parce que là, vous sortez vraiment entrecoupé. Nous rappelons que vous intervenez depuis Bounia, là où vous êtes, en mission pour former le magistrat. Est-ce que vous nous suivez? Voilà, le temps de prendre le premier auditeur qui est en ligne, Manga, qui nous a rejoint, qui est à Kindu. Bonjour Manga. Voilà, Manga, vous êtes avec nous?
Oui. Est-ce que la MONUSCO a quel rôle dans notre armée?
Voilà, oui, Manga, s'il vous plaît, je crois que vous connaissez bien le sujet du jour. Allô?
Allô?
Oui, est-ce que vous avez une idée sur le sujet du jour?
Le sujet du jour, ce n'est pas pour l'armée, notre armée et la Monusco.
Non, nous parlons de l'ultimatum pour juger les actes qui ont été commis par les soldats de FRDC contre certaines femmes dans des violences sexuelles. Vous avez un mot sur ça? Vous avez un commentaire?
Notre armée a fait quoi?
Pardon? Ben voilà, alors le temps peut-être que vous puissiez bien comprendre le sujet, on va revenir à vous, mais Manga, merci d'avoir sollicité d'intervenir dans cette émission. Maître Adrien, vous êtes à Kananga également, bonjour.
Oui, bonjour, J.R. Lungembo.
Voilà, nous vous accordons la parole pour commenter cette actualité.
Oui, je pense que l'ultimatum de nos amis du Conseil de sécurité, si je peux englober cela, vient relancer encore le débat à ce qui concerne l'impunité dans notre pays. Hier, je pense que ce n'est pas quand même correct de voir que l'impunité est en train de persister, l'impunité est en train de déborder même donc certaines bases. Comment expliquez-vous? Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de chefs de miliciens aujourd'hui qui sont à la CPI par rapport aux faits commis, donc aux faits similaires commis par nos militaires qui sont aujourd'hui, qui sortent comme des intouchables. Moi, je pense que cet ultimatum peut réussir, mais je suis en train de mettre certaines craintes pour qu'on ne puisse pas dire que ce sont des ingérences, hein, parce que nous avons suivi la fois dernière le gouvernement en train de s'acharner par rapport à cet ultimatum. Donc cela, nous estimons, en tant que population, il est quand même normal. Et ça fait même honte, hein, ça fait honte de voir que par rapport aux faits infractionnels commis par un groupe de militaires, c'est vrai, on ne généralise pas, on a très bien ciblé donc ces bataillons-là, au lieu qu'on puisse sanctionner une fois pour toutes, mais on est en train donc de faire certaines histoires qui ne sont pas du tout bonnes et qui sont en train de discréditer même notre pays sur le plan international. C'est pour cela, moi, je pense, comme le monsieur a donné l'ultimatum et c'est vrai se passer dans toutes les chaînes, tant nationales qu'internationales, il appartient maintenant à notre gouvernement soit de confier cette affaire-là à la juridiction, donc aux juridictions militaires, pour que ces juridictions-là se saisissent d'office de cette affaire.
Oui, mais les problèmes ne se posent pas, Adrien, dans la mesure où la RDC s'est dotée d'ailleurs depuis 2006 d'un instrument juridique relatif aux violences sexuelles. Donc je crois que le gouvernement, par rapport à votre entendement, ne ferait que appliquer cette loi de 2006 pour permettre à ce que ces femmes victimes puissent rentrer dans leurs droits. C'est cela, maître
Adrien.
Oui,
mais c'est pour ça. Donc je suis tout à fait d'accord. Donc je marche ensemble avec vous, mais ce qui nous inquiète, c'est ce silence-là, hein, un silence de mort de la part de notre gouvernement. C'est comme si il est en train d'encourager, il est en train d'applaudir ce qui se passe à l'Est, et puis vous savez que la MONUSCO,
Maître Adrien.
A beaucoup investi dans notre pays, et la communauté internationale collabore avec nos militaires. Aujourd'hui, je pense que c'est déjà un discrédit.
Oui, mais je crois que déjà le fait que le législateur a pensé à doter le pays d'un instrument juridique contre les violences sexuelles, je crois que c'est déjà une bonne foi de la part des autorités de pouvoir aussi prendre à bras le corps la question. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre votre intervention. Merci, Maître Adrien, mais vous souhaitez que l'autorité puisse aller encore plus loin, c'est-à-dire prendre, disons, en compte cet ultimatum et agir le plus tôt. Galvani, vous êtes en Bujimaï, donc à côté de Kananga. Bonjour, Galvani.
Bonjour à tous.
Voilà, vous avez suivi Adrien qui a évoqué les débuts de la lutte contre l'impunité par rapport à cet ultimatum et qui insiste à ce que l'autorité congolaise puisse aussi prendre à bras le corps cette décision de l'ONU pour arriver à permettre à ce que les femmes victimes puissent rentrer dans leurs droits. Vous avez également la parole pour commenter cette actualité.
Merci beaucoup. D'abord, bon, premièrement, le Congo est un État souverain. Donc, le Congo est assez responsable de régler ses propres affaires et ses propres sujets. Donc, Bien sûr, il se peut qu'il y ait lenteur dans la réglementation de ces affaires. Je crois que quoi, les Nations Unies n'ont pas quand même le droit de s'immiscer dans les affaires de la justice congolaise, ni pas aussi même le gouvernement, parce que la justice est totalement indépendante. Il y a la division du pouvoir, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Néanmoins, cet ultimatum peut toucher la volonté canadienne. Si pas la volonté, il n'y en a pas, parce que nous voyons au Congo, avec, il y a une crise, il y a un peu l'impunité qui règne. C'est pourquoi c'est les Nations Unies peuvent essayer un peu de bousculer, mais pas donner l'ultimatum. Là, c'est trop dire. Ils peuvent juste inciter, c'est-à-dire faire revenir à la raison le gouvernement ou de quoi.
Galvani, si vous permettez, on va réfléchir un peu ensemble. Est-ce que vous êtes au courant que plusieurs pays ont ratifié certains instruments juridiques internationaux qui sont relatifs à la lutte contre les violences sexuelles, et notamment à la RDC?
Évidemment, je suis très sûr et je soutiens cela parce que nous constatons que les violences sexuelles sont devenues un fléau ici et nécessairement on doit punir les auteurs. Mais on doit laisser le temps à la justice de faire son travail et non s'impliquer dans la justice congolaise quand même, monsieur le journaliste.
Voilà, donc pour vous, vous restez ferme en disant que la RDC c'est un pays souverain, c'est cela?
Oui, la RDC c'est un pays souverain. Les Nations Unies peuvent juste nous conscientiser pour que cette situation ne puisse pas rester lettre morte, pour qu'on puisse pas favoriser l'impunité. Mais pas aller jusqu'à donner l'ultimatum. Là, c'est trop faire.
Voilà, donc pour vous, c'est pas intéressant qu'on puisse donner l'ultimatum, mais qu'on continue à sensibiliser.
D'accord.
Oui, donc quand on continue à sensibiliser, ça pourrait permettre à ce que quelqu'un puisse, qu'on puisse le rappeler à l'ordre. Merci beaucoup, Galvani. Médard, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Alain Kiké.
Vous avez la parole, Médard.
Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, les Nations Unies vraiment doivent changer leur manière de voir certaines choses. Comment le Congo, qui est un pays souverain, qui a déjà son indépendance, doit subir de telles intimidations de la part des Nations Unies. Intimer l'ordre, c'est trop soumissif, monsieur le journaliste, quand même.
Oui, mais Médard, vous êtes sans ignorer qu'il y a, la loi sur les violences sexuelles qui existe depuis 2006.
Bien sûr.
Alors,
un pays souverain comme le Congo n'est pas du tout acceptable, monsieur le journaliste.
Voilà, mettons-nous maintenant sur un terrain au niveau de Kananga. Est-ce que vous avez constaté quand même un effort du côté de ceux-là qui doivent dire les droits pour permettre à ce que les femmes victimes puissent rentrer dans leurs droits? Est-ce qu'il y a quand même un jugement qui est rendu par rapport à cette question?
Oui, oui. Je voudrais un peu demander à l'invité quel est le sort de la RDC vis-à-vis des Nations Unies au cas où la RDC n'arrive pas à sanctionner ces militaires-là qui ont commis les viols. Est-ce que les Nations Unies vont exclure la RDC pour qu'elle ne fasse plus un pays membre des Nations Unies?
Voilà, donc vous voulez savoir si la RDC sera sanctionnée dans la mesure où il ne respectait pas l'ultimatum, c'est cela la question. Merci beaucoup, oui. Médard. Théodore, vous êtes en Bujimbaï. Bonjour.
Bonjour. Je pense que si la mission des Nations Unies donne l'ultimatum d'une semaine à notre État pour faute de crimes et viols sexuels sur nos mamans, nos grandes-mères, nos grandes sœurs, nos petites sœurs et nos femmes, c'est vraiment une conséquence de la légèreté et manque d'autorité sur les groupes armés. Une fois que le gouvernement accepte d'intégrer ces groupes armés dans l'armée nationale, avec leur habitude de violer des femmes, de détourner, faire n'importe quoi, ils ont contaminé même nos vrais soldats congolais.
Oui, mais Théodore, mais pour le cas d'espèce, il s'agit plutôt des soldats de deux bataillons des FRDC.
Bien sûr, c'est ces deux bataillons-là que je dis. Parce que si vous les mettez dans ces deux bataillons, il y a... Mais on veut même intégrer les groupes armés dans ces bataillons. Ce qui a fait que, dès qu'ils sont récupérés, ils peuvent récupérer un territoire, et ce qui suit, c'est quoi? Ce sont des viols, ce sont des crimes, beaucoup de choses. C'est pourquoi, pour moi, je demande, que les incriminés se justifient en prenant les responsabilités devant toutes nos femmes sur les viols commises et que la MONUSCO aide les brigades d'intervention pour mettre hors d'état de nuire les fauteurs de tous ces crimes et que la justice soit faite.
Voilà, si je comprends bien par rapport à votre intervention, ces deux bataillons issus donc le produit de l'intégration, de brassage ou encore le mixage, c'est, tout est parti par là et ce sont des gens qui avaient commis des actes, disons, de ces 126 viols en novembre dernier. Et cela prouve qu'il y a une certaine légèreté du côté de l'autorité malgré la mise sous pied ou peut-être la mise en œuvre de la loi contre les violences sexuelles. Rien n'est fait par rapport à ces personnes. Donc je crois qu'à ce niveau, c'est un rappel. Il faudrait qu'on mette un accent sur cette question. Merci Théodore. Et nous revenons à vous, notre invité. Il est temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à ces débats. Nous abordons la question sur l'ultimatum lancé par le chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsous, lors d'une réunion à New York avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Ultimatum relatif à qui demande à la RDC donc d'agir contre les soldats de deux bataillons des FRDC accusés d'avoir commis au moins 126 viols en novembre dernier. 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on revient à vous, Ghislain Mouéou. Vous parlez tout à l'heure de ce que nous inspire cet ultimatum. Vous avez évoqué là les dispositions légales, relatives à la matière. Voilà, avant que même nous puissions connaître cette interruption, si on peut encore revenir sur ça pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui viennent à peine de nous rejoindre.
Oui, merci. Indépendamment de notre volonté, il y a eu cette interruption-là. Mais ce qui est vrai, je voulais dire seulement ceci, que en rapport avec l'ultimatum, si on doit donner un point de vue par rapport à notre loi, nous avons non seulement ratifié certains instruments internationaux, mais il existe déjà des lois qui ont été promulguées. C'est notamment la loi 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié à ce jour. À l'instar de cette loi, il y a une autre loi qui a été promulguée le même jour et légiférée le même jour. C'est la loi 06/019 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Alors, quand vous prenez cette loi en rapport avec la procédure pénale, en ce qui concerne les infractions de violence, le législateur a estimé que ces infractions devaient être réprimées en toute célérité. C'est ainsi qu'il y a un timing qui a été déjà déterminé. Figurez-vous déjà, on dit l'officier de police judiciaire qui est saisi d'un cas de viol ou d'une dénonciation de viol doit, dans les 24 heures qui suivent, tenir immédiatement informé l'officier du ministère public, donc le procureur de la République du lieu de son ressort. Alors, vous comprenez déjà qu'à ce niveau-là, le législateur a voulu ne pas laisser l'impunité ou certains cas échappés. Il est vrai qu'il y a certains cas qui entrent dans ce que nous appelons en droit les chiffres noirs en termes de criminalité, qui ne sont pas peut-être portés à la connaissance de la justice. Mais dis-moi, pour les cas qui sont portés à la connaissance de la justice, je souhaiterais que peut-être l'ultimatum, peut-être c'est très fort, mais je pense dans des termes un peu diplomatiques, on aurait peut-être demandé à l'État congolais, dès lors que ces personnes ont été déjà identifiées ou les victimes sont en mesure d'identifier les auteurs, que ces faits-là soient directement réprimés conformément à nos lois, parce que nos lois répriment. Je vous ai dit que le temps de l'instruction et jusqu'à la décision ne peut pas aller au-delà de 3 mois. Donc, on a déjà essayé de réduire. Donc, les cas de viol sont traités avec célérité. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, nous, en tant que justiciers, parce que nous sommes appelés, nous, à ne faire qu'application de la loi, et nous demandons à ce que la loi soit au moins dans ces conditions-là respectée, si c'est que dans un rapport avec la législation.
Oui, justement, vous, la RDC, tout le monde le sait, vous venez de le dire, c'est doté des instruments juridiques relatifs aux violences sexuelles depuis 2006. Alors, au regard de cette décision de l'ONU, ne peut-on pas dire que l'application de cette loi sur les violences sexuelles est un échec? Parce que jusque-là, on ne sent pas, ça ne produit pas d'effet.
Non, nous ne pouvons pas dire que c'est un échec. Voilà, vous savez que cette loi, elle est bien certes conforme aux différents instruments internationaux que nous avons eu à ratifier. Mais aujourd'hui, il est aussi vrai que c'est une évidence que cette loi, par rapport à la culture, par rapport à la société congolaise, cette loi est en train de connaître dans son application certains problèmes, notamment, et vous comprendrez que dans cette loi, les victimes elles-mêmes de ces infractions, il n'y a pas pris de mesures pour pouvoir réparer les préjudices. Parce que la plupart des cas, ces personnes qui sont les auteurs de violences sexuelles, ce n'est pas immédiatement qu'ils sont mis aux arrêts. Par moment, c'est après qu'ils aient pris la fuite d'escampette, qu'ils se soient soustraits de la justice, que les victimes arrivent à pouvoir dénoncer les faits. Alors, le temps qu'on retrouve ces personnes, là, c'est un autre cas. Mais les cas où ces personnes ont été, par exemple, connues et retrouvées, et actuellement, ils sont en train de comparaître, ou ils sont devant les juridictions, les juridictions sont déjà saisies. Nous pouvons demander à ces juridictions-là qui sont saisies de respecter tout simplement les contenus de la lettre, parce que les contenus de la loi par rapport à la procédure, par rapport à ces infractions contre les violences sexuelles. Mais les cas qui ne sont pas encore portés, vous devez savoir que en matière de la criminalité, il y a ce qu'on appelle, nous appelons la criminalité réelle, et la criminalité judiciaire, il y a la criminalité apparente. Et vous comprendrez avec moi que dans cette logique-là, il y a certains cas de violences qui ne sont pas portés à la connaissance des autorités judiciaires. Mais les cas qui sont portés à la connaissance des autorités judiciaires, ce sont ces cas-là qui peuvent être considérés par nous comme étant les cas connus de l'autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire qui a reçu mission, les cours et tribunaux qui ont reçu mission de par la Constitution, de pouvoir dire les droits, parce que ce sont les pouvoirs qui garantissent la liberté des individus et des citoyens, et les droits de l'homme surtout, qui ont reçu mission de pouvoir dire les droits, que nous demandons à ce que les cours et tribunaux qui sont déjà saisis de ces cas de viol, du moins les cas qui sont portés à la connaissance de la justice, que ces cours et tribunaux puissent statuer le plus vite possible. D'ailleurs, de Bounia, où vous m'avez joint, où je me trouve, j'ai constaté la présence sur le lieu ici de la cour militaire de Kisangani, qui se trouve ici en train de siéger pour tous ces cas qui ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires. Peut-être par rapport à nos amis de la MONUSCO, c'est vrai, ils prétendent qu'il y a eu plusieurs cas de viol qu'on a dû dénoncer, mais est-ce que ces cas-là ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires ou c'est resté seulement les cas portés à la connaissance des ONG? Et vous pouvez comprendre nos ONG dans quelles conditions ils sont en train de travailler. Alors, nous pensons que, de notre part, nous estimons que la République démocratique du Congo n'a pas intérêt à ne pas juger, à faire juger ces personnes. La République démocratique du Congo, qui est un État de droit, où le respect des droits de l'homme a déjà franchi des étapes assez considérables, qu'on considère aujourd'hui parmi les nations qui respectent les droits de l'homme, on ne pourra pas citer 4 ou 5 en Afrique sans qu'on ait cité la République démocratique du Congo. Vous comprendrez avec nous que, du moins en ce qui concerne ces cas-là, nous demandons à ce que, du moins les cas qui sont portés à la connaissance des cours et tribunaux, qu'on puisse accélérer et qu'on respecte les timings tels que édictés par les législateurs.
Oui, mais oui, parce que le rapport dit clairement qu'il s'agit de soldats de deux bataillons, des FRDC, qui sont accusés d'avoir commis au moins 126 viols en novembre dernier. Les temps, les personnes
sont connues. Généralement, lorsqu'on présente par exemple un bataillon, je ne suis pas militaire, mais je suis en train de me poser la question, un bataillon peut déjà avoir au moins plus de 500 personnes, si je m'abuse. Bon, si ces deux bataillons, figurez-vous, les deux bataillons, parce que c'est que les ONG disent, Est-ce que le deux bataillons pour un cas de 126 cas de viol, hein, déterrer deux bataillons, vous voyez déjà qu'il se pose un problème déjà de l'identification des auteurs, parce qu'on ne peut pas déterrer les bataillons, on ne peut pas déterrer tous les deux bataillons, non.
Oui,
on doit d'abord identifier les auteurs.
Oui,
donc, déjà, s'il se pose un problème d'identification des auteurs,
non,
on
ne
peut pas aujourd'hui prétendre que les deux bataillons ont
commis
c'est comme si on est en train de poursuivre une personne, vous savez, une personne morale. Or, on doit arriver à identifier toutes ces personnes
qui
sont identifiables. Vous savez toujours que le commandement existe, donc il faudrait que de l'intérieur d'abord de ces bataillons, si ces personnes ont été identifiées, je ne vois aucun intérêt que ces personnes qui sont déjà identifiées par les bataillons comme étant auteurs de faits continuent à courir les rues sans qu'ils ne soient poursuivis. Je pense que parler de deux bataillons et que les deux bataillons doivent être déférés pour le cas de viol, vous voyez déjà qu'il y a risque qu'on puisse attraire devant la justice les personnes qui n'ont jamais commis de faits.
Voilà,
une infraction instantanée. Et l'auteur doit être préalablement identifié. Vous ne devez pas l'imputer à un groupe. Si vous imputez à un groupe, on peut appeler les viols collectifs, mais néanmoins, les groupes doivent être les personnes ayant fait partie du groupe doivent être identifiées. Mais dès lors qu'on n'a pas identifié, vous ne trouvez pas que ce serait peut-être loin de moi de penser à une exagération diplomatique, hein, demander à ce qu'on de faire deux bataillons comme ça, et sans qu'on ait identifié éventuellement les personnes. Peut-être on peut considérer l'ultimatum là comme tout simplement une sonnette d'alarme et qu'on demandait tout simplement à nos autorités, tant militaires que civiles, qui ont la charge de pouvoir déférer ces personnes devant les cours et tribunaux. Et sans oublier, ça vous savez que la justice militaire, elle a toute une procédure, il y a une procédure qu'on doit pouvoir observer. Si ces personnes ont été déjà identifiées par le commandement n'a aucun intérêt à pouvoir les déférer devant les cours et tribunaux. Et nous attendons, du moins, les cas qui sont portés à la connaissance des cours et tribunaux. Je pense que je viens de vous donner un exemple ici à Missouri, où déjà la cour militaire s'est transportée et le siège en foraine ici. Donc, cela veut dire que peut-être cet aspect n'est pas peut-être connu des autorités onusiennes, mais du moins ceux qui sont sur place ici savent déjà qu'il y a une cour militaire qui est en train de siéger pour tout ce cas-là.
081-890-6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Ils nous ont rejoints, Omar Kinshasa et Arthur Kikuit. Omar, bonjour.
Bonjour, Gilles Longendo.
Voilà, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. Vous avez également la parole, vous, pour commenter cette actualité.
Merci beaucoup, Gilles. Comme on peut s'en rappeler, la guerre est un phénomène qui est dans les relations des États. Et pour éviter qu'il y ait des comportements inhumains, la communauté a mis en place des lois, je peux citer les conventions de Genève, les traités de Rome, qui interdisent aux militaires d'avoir un comportement inhumain. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser pendant la guerre. Les viols, les pillages, et que sais-je. Par rapport au viol qui a été l'objet de notre débat cet après-midi. Alors, il existe bel et bien des lois, M. Julien Longembo, mais ces lois doivent être respectées. Il est important de faire la guerre, mais on doit être humain pendant la guerre. Et toute personne qui enfreint ces lois doit être punie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que cette remise en cause de la communauté internationale est une interpellation à la responsabilité et à la conscientisation des autorités congolaises. Nous l'avons cité ici, les codes pénales militaires, la loi de 20 juillet 2006, les traités internationaux que nous avons ratifiés. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait de la sanction? Moi, je pense que le problème réside d'abord au pouvoir judiciaire. Au regard de l'article 149 de la Constitution, il a l'obligation d'appliquer les lois et de sanctionner tous ceux qui le violent. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait 126 cas non traités? Donc, un rapport voudrait interpeller les pouvoirs judiciaires. Mais lorsque ce pouvoir judiciaire est inerte ou immobile, il faudra se poser des questions. Les problèmes sont d'abord dus aussi à la mauvaise foi de certains magistrats qui n'aiment pas condamner. Des deux, il y a aussi un problème de moyens sérieux, monsieur le journaliste. Faites un tour au parquet, au niveau interne, même au niveau de la capitale, au niveau de l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que les magistrats ont des difficultés énormes. Leurs bureaux, leurs chaises, ils n'ont même pas assez de moyens pour condamner. Condamner, c'est bien, poursuivre, c'est bien. Mais lorsqu'on n'a pas assez de moyens suffisants, on ne sera pas bien sanctionné. Des deux, le pouvoir exécutif, il est là pour allouer un budget conséquent à la justice. Vous êtes journaliste et menez des enquêtes. Dans notre pays, il y a un budget conséquent pour la justice. Parce que la justice est plus qu'une technique criminelle très importante. Il ne faut pas limiter à dire quelqu'un a violé, il faut prouver qu'il a violé. Et la preuve là demande beaucoup de techniques tant scientifiques que pas scientifiques pour le prouver. Alors ces pouvoirs doivent mettre en place de nombreux mécanismes et des moyens pour assurer, n'est-ce pas, les pouvoirs judiciaires. Quant voilà un peu ma préoccupation par rapport à ces cas. Moi, je pense pour finir que c'est une façon d'interpeller notre État pour dire c'est vrai que la communauté internationale peut intervenir, mais c'est d'abord à l'État qui est un État des droits. Et l'État des droits comme caractéristique principale, la punité ou la sanctionnabilité de tous les faits. Mais cette sanction, monsieur le journaliste, exige des moyens énormes, exige également la conscience des magistrats pour que cela soit mis en œuvre. Voilà ma contribution, Julien Mugimbo, et je vous remercie.
Merci beaucoup Omar d'avoir commenté cette actualité, et nous retenons deux choses. Donc il s'agit là d'une interpellation des autorités à la responsabilité, et aussi un rappel au pouvoir judiciaire, hein, de pouvoir aussi avoir un regard sur l'article 149 de la Constitution qui demande à ce que de tels actes soient en tout cas jugés et condamnés s'il le faut. Arthur est à Kikwit. Bonjour Arthur.
Bonjour Monsieur Joël Longembo. J'interviens depuis Kikwit. Je n'étais pas d'accord avec des messieurs qui sont passés qui ont pensé que l'ONU est en train de faire pression au gouvernement congolais. Mais moi, je crois que c'est d'ailleurs la honte du gouvernement congolais, parce que ces crimes-là doivent être condamnés. Les gens qui font des crimes comme ça, nous ne pouvons pas les amadouer et les soutenir. Non, moi, je pense que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Mais il y a la loi. Bien sûr, monsieur le journaliste, qu'il y a la loi. Mais est-ce que cette loi est appliquée? Parce que, écoutez, moi, je vis à Kikwit, à côté d'un camp militaire. Mais nous voyons comment les militaires se comportent. Et si la loi n'est pas appliquée, les militaires pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Donc, moi, je crois que on doit punir ces actes-là, et l'ultimatum doit faire une honte au gouvernement.
Oui, Arthur.
Qui laisse faire les choses, les choses, mais qui ne fait pas agir.
Oui, Arthur, ce que vous partagez l'avis de Omar qui parlait tout à l'heure, qu'il s'agit là d'une interpellation des autorités à la responsabilité et aussi un rappel de l'article 149 de la Constitution au pouvoir judiciaire.
Exactement, exactement. Je suis d'accord avec Omar. Je suis d'accord avec lui, mais ce que moi je demande au gouvernement congolais, c'est d'appliquer la loi à la lettre. Qu'on ne ferme pas l'œil devant les malfaiteurs parce qu'il appartient à qui que ce soit. Mais moi, je crois que la loi doit être appliquée avec toute la rigueur pour punir ces actes-là et pour que ces actes ne puissent plus revenir. Voilà donc mon intervention. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà.
Et merci à la radio.
Merci, Arthur. On quitte Kikwit pour aller à Kiwanja, disons au Nord Kivu. Jean-Claude est là. Merci, Jean-Claude, de nous rejoindre. Bonjour, Jean-Claude.
Bonjour.
Voilà, Jean-Claude, vous avez suivi vos prédécesseurs tout à l'heure. C'est vrai, les avis sont partagés. Omar parlait tout à l'heure de l'interpellation des autorités à la responsabilité et aussi un rappel de l'article 149 de la Constitution au pouvoir judiciaire. D'autres auditeurs ont aussi partagé quelques inquiétudes par rapport à la question. Est-ce qu'il faudrait que l'ultimatum provienne de l'extérieur, qui ressemble parfois à une ingérence dans un pays souverain? Peut-être que vous avez aussi un point de vue contraire. Quel est votre point de vue?
Monsieur le journaliste, moi, je suis très déçu par les auditeurs qui parlent de la souveraineté de notre pays. Je n'en disconviens pas. Le Congo est un pays libre et souverain. Mais le problème, c'est quoi? Moi qui vis à l'Est, moi qui est à Kinshasa, où nos femmes sont violées, nos mères sont violées, nos filles sont violées. Peut-on parler de la souveraineté pour ça? Les vrais problèmes qui se posent à l'Est, et peut-être même en République démocratique du Congo en général, c'est que la justice n'est pas respectée. Et par la Constitution, nous sommes tous égaux devant la loi. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Ici, vous êtes sans ignorer que, si j'ai subi ça, un reportage sur Radio Okapi, un officier d'origine CNDP avait violé à partir de Walikale, on l'a amené à l'auditorat militaire, et les militaires CNDP sont venus les retirer de l'auditorat militaire. Il est resté impuni. Agnadibou, c'était la même chose au cachot. On est venu encore les prendre. Donc, chez nous, le problème, c'est quoi? C'est que la justice pour tout le monde. Il n'y a que seuls les pauvres et ceux qui ne sont pas puissants. Et c'est ce qui rend le problème de l'Est très difficile. Il y a beaucoup de milices qui se forment, c'est par la déception parce qu'ils sont déçus par la justice. Donc ce n'est pas un problème de souveraineté, c'est un problème d'appliquer les textes. Et d'ailleurs, après l'affirmation qui nous vient de l'ONU, je devrais avoir la démission du ministre des Justes, la justice, si nous sommes seuls. Donc, je devrais avoir même la démission de l'auditeur général pour n'avoir pas appliqué la loi. Donc, j'encourage l'ONU à nous aider parce que c'est comme si nous étions des orphelins, comme si nous n'avions pas d'autorité. Je vous remercie.
Merci Arthur d'avoir appelé de Kiwanja. Nous retrouvons Christophe qui vient à peine aussi de nous rejoindre. Ben, il est à Kindu. Christophe, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Que vous inspire cette étude-là?
Christophe, hein?
Oui, Christophe.
Christophe Ambika à Kindu ici.
Oui, Christophe Ambika. Que vous inspire cette étude-là des Nations Unies?
Oh, vous savez, monsieur le journaliste, lorsqu'on ne se fait pas respecter, on ne se respecte pas non plus, quelqu'un d'autre ne peut pas vous respecter. Le gouvernement congolais doit bien comprendre le message que aujourd'hui les Nations Unies nous transmettent, puisque c'est une façon de nous faire voir que nous sommes irresponsables par excellence. Naturellement, je dis naturellement, puisque je suis scientifique, et surtout je suis droite de formation, je sais que les Nations Unies ont un pouvoir limité par rapport à la souveraineté dont les autres ont évoqué il n'y a pas longtemps. Mais ils ont compris que on ne fait rien. À dire vrai, monsieur le journaliste, la justice congolaise est poreuse et surtout faible.
Oui,
faible pour des raisons que les autres ont évoquées.
Oui, mais
ils ont dit qu'il n'y a pas de moyens.
Oui, Christophe.
Les magistrats sont très mal payés peut-être. Mais il y a tout un chapelet de raisons qui font que les Nations Unies prennent la place du gouvernement congolais. Et là, monsieur le journaliste, lorsque vous voyez le budget qu'on alloue à la justice, mais ce squelettique se met bien. L'exécutif aujourd'hui prend la part des lions et influe sur les décisions que les magistrats sont en train de prendre. Mais à dire vrai, ces gens-là qu'on est en train d'interpeller, parce que je sais que les Nations Unies ne vont rien faire dans la pratique. C'est un discours qu'on est en train de faire, mais que le gouvernement semble comprenne le message que les Nations Unies est en train de nous dire. Qu'on alloue un budget conséquent, un moyen conséquent. Mais vous savez, monsieur le journaliste, lorsque vous avez une femme, je donne un exemple, hein, très belle dans la nature, mais vous ne savez pas l'encadrer. Mais elle peut se mécomporter. Et lorsque elle se mécomporte, allez-vous condamner la femme ou vous allez vous condamner vous-même qui avez pris cette femme comme épouse? C'est nous qui sommes la cause et la raison de tout ce que nous sommes en train de voir. Moi, j'interpelle et je demande au gouvernement qu'ils prennent leurs responsabilités. Puisque on nous a craché dans la bouche et nous avons accepté d'avaler les crachats. Vraiment, le mot me manque puisque je suis en train de pleurer pendant que je suis en train d'intervenir, monsieur le journaliste. Vraiment, je regrette.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Nous revenons à vous, Ghislain Mouéou, magistrat du parquet. Vous êtes notre invité, hein. Vous avez suivi quand même les uns les autres et aussi leurs appréhensions par rapport à la question. Ils ont pu partager quand même leurs soucis, hein, sur la question et qu'est-ce qu'ils pensent. Ben alors, un commentaire par rapport à ce qui venait de leurs interventions. Voilà, Ghislain, vous êtes avec nous.
Oui, je vous ai bien, j'ai bien suivi nos auditeurs.
Mais si vous pouvez,
que la plupart d'entre eux ont insisté sur les conditions dans lesquelles le magistrat travaille. Ça, c'est une autre paire de manches. Il est vrai aussi que nos auditeurs ont peut-être oublié que la justice militaire, il y a des principes, hein. C'est le commandement qui met à la disposition des autorités judiciaires
le coupable de certaines infractions. Il est vrai que nous devons respecter les droits de l'homme, c'est ce que j'ai dit, mais pour qu'on arrive à identifier ces auteurs, parce que vous avez parlé de deux bataillons, voilà notre préoccupation. Nous sommes d'accord, et vous êtes sans ignorer, peut-être l'auditeur a oublié, qu'il y a une cour opérationnelle qui est sur le terrain. Et la cour opérationnelle, elle est là, c'est pour ça, parce que lorsque les militaires vont au fond, ils sont accompagnés par la justice militaire. Et la justice militaire est là, c'est pour demander tous les actes en rapport avec les violations des droits de l'homme. Parce que il n'est pas dit que quand vous êtes pendant le temps de la guerre, vous pouvez passer outre l'observance des droits de l'homme. Tout ça, ça entre dans le cadre des droits de l'homme. Alors, pour nous, nous disons, il est vrai que les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent sont difficiles, au point que les magistrats aujourd'hui, pour que les magistrats se retrouvent, puissent réunir tous les éléments et des preuves. Prenez même le cas avec la justice internationale. Vous voyez déjà le temps que la justice internationale prend pour déférer quelqu'un et pour que la personne soit jugée. Et tout ça, ça doit appeler à ce qu'il y ait des moyens qu'on mette à la disposition. Et nous avons toujours dit que la justice élève une nation, donc il faudrait qu'aujourd'hui cette interpellation des Nations Unies, par rapport à la difficulté aujourd'hui que nous avons, par rapport aux actes isolés proposés par nos compatriotes congolais, qui aujourd'hui a conduit les Nations Unies à une de ces conférences, rappeler à l'ordre du gouvernement congolais tout simplement à cause de ceux qui ont posé les actes qui sont en violation des droits de l'homme. Nous disons donc, c'est une façon peut-être d'interpeller le gouvernement, mais il faudrait que nous mettons cela en profit pour que nous prenions des dispositions et que les personnes, s'ils sont identifiées, elles sont identifiables, que ces personnes soient déférées devant les cours et tribunaux. Et la justice, elle est disposée à pouvoir respecter le timing qui est donné en matière de violence sexuelle. Voilà ce que moi je pourrais dire, parce que n'étant pas sur le terrain, parce que je vous ai dit, en parlant de deux bataillons, bon, on est déjà dans les mille et quelques individus. Si les mille et quelques individus ont violé 126 personnes, on ne sait pas encore dans quelles conditions, et vous savez qu'à l'Est, le viol, ce n'est pas seulement le viol d'hier qui était le viol où on visait la satisfaction des besoins du plaisir sexuel. Aujourd'hui, le viol est commis dans le sens parfois de faire tout simplement du mal, parce que on écoute peut-être à d'autres instruments, hein, et ça demande à ce que l'État ne puisse pas, et surtout que nous sommes tous égaux. Je vous ai dit, nous sommes tous égaux devant la loi, donc les victimes de ces viols ont intérêt aujourd'hui, d'ailleurs, pour qu'ils soient bien soulagés, voire même leur bourreau être condamné. Mais quand ils ne voient même pas les bourreaux être condamnés, ça ne peut que les mettre encore dans un état psychologique que personne d'entre nous ne peut s'imaginer. Alors, pour tout cela, nous demandons, c'est que, il est vrai qu'on a interpellé, nous n'avons pas à jeter de l'opprobre à notre gouvernement ou à qui que ce soit. Nous n'avons qu'à prendre ça comme étant un rappel et que les services puissent se mettre en œuvre pour que ces personnes soient déférées, qu'on les identifie au préalable, parce qu'il ne faudrait pas déférer devant les cours et tribunaux les innocents. Vous savez qu'on ne peut pas les innocents, toute personne, surtout qu'il y a la présomption d'innocence, qui est une garantie conditionnelle, toute personne jouit de la présomption d'innocence. Donc il faudrait que les coupables ou les présumés coupables soient déférés, mais faudra-t-il qu'ils soient identifiés. Et voilà, dans les conditions dans lesquelles les viols se commettent à l'Est, nous laisse penser tout cela à des difficultés énormes dans lesquels se trouvent les magistrats, même s'ils sont sur le terrain. Et vous savez que même les magistrats eux-mêmes sont parfois exposés à une insécurité. Hein, et les cas sont légions par rapport à cette zone. C'est pour cela que nous ne cessons toujours de demander à ce que la paix soit rétablie le plus vite possible pour que les magistrats travaillent dans des conditions qui peuvent être des conditions acceptables pour permettre à ce que tous ces cas-là soient portés à la conscience de la justice.
Mais si on met
les magistrats dans les mêmes conditions, les conseils des victimes, comment on peut arriver à réunir et comment les magistrats peuvent se transporter sur les lieux et réunir tous ces éléments et afin de soutenir l'accusation.
Oui, justement, si vous nous permettez, on va prendre encore des auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre. Gabriel qui est à Lubumbashi et ingénieur Mangoya à Kinshasa. Bonjour Gabriel.
Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, votre point de vue Gabriel.
Oui. Hier, moi, je voulais juste d'abord rassurer que le Congo est un État souverain, indépendant aussi. Et parler des ultimatums comme ça, c'est trop fort, à mon avis. Le problème, c'est que on ne soutient pas d'abord les auteurs de ces infractions, parce que c'est d'abord pitoyable de voir que qu'ils sont là et jusqu'actuellement ils sont pas encore punis. Alors, ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est que nous, les Congolais, aujourd'hui, on a encore l'impression que on ne s'appelle que sur ce qui vient de l'étranger. Donc, nous attendons à ce que on vienne nous interpeller pour que nous puissions nous intéresser de quelque chose pourtant humain et important aussi pour notre pays. Donc, fallait-il attendre à ce que la communauté internationale vienne nous interpeller aujourd'hui pour que nous puissions parler de ça? Moi, je crois que c'est pas une bonne chose. Parce que, regardez, par exemple, depuis quand nous déplorons, nous parlons de la tenue d'un dialogue national pour la cohésion nationale, tout ça. Est-ce que vous voyez jusqu'à présent ce sont de manœuvres, tout ça, qui sont en train de faire? Alors que c'est très important, pendant que le pays est en train de se dégrainer petit à petit. Ils attendent seulement ce que la communauté internationale ou soit l'étranger vienne nous dire un mot pour que c'est là où puisse se matérialiser.
Donc,
le problème, ce sont les dirigeants qui sont incompétents. Incompétents vraiment.
Oui, Gabriel.
C'est mieux qu'ils continuent à recevoir des ultimatums comme ça. Ça prouve comment est-ce qu'ils sont.
Oui, Gabriel.
Ils ne conviennent pas.
Voilà, donc, oui, nous retenons que vous rejoignez Karma Omar et d'autres auditeurs qui ont, en fait, inscrit cette décision de Nations Unies dans le cadre d'une interpellation des autorités à la responsabilité et aussi un rappel de l'article 149 de la Constitution de la République au pouvoir judiciaire. Merci, Gabriel. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, JL.
Vous avez la parole, Ingénieur Mangoyo.
Merci, JL. JL, bon, les mots me manquent pour m'exprimer dans ce sens. Mais je voudrais quand même dire quelque chose en tant que Congolais. Si j'ai bien suivi, ces faits se sont déroulés depuis novembre 2012. Donc, s'il faut compter, nous sommes presque à 5 mois depuis que ces abus se sont commis. Alors, moi je pense que les troupes de FARDC, les troupes de la MONUSCO, si ce rapport a été rédigé par la MONUSCO, moi je crois que dans le cadre de la collaboration, en amont, je suppose que lorsque ce rapport a été rédigé, eh bien, il a été en collaboration avec les FARDC. Si tel est le cas, depuis novembre jusqu'à ce jour, pourquoi l'autre partie, c'est-à-dire que les FARDC, le gouvernement, n'a pas pris des dispositions par rapport à ça? C'est dommage. C'est dommage que des faits qui se commettent comme ça, 5 mois après, il faut que la communauté internationale puisse maintenant nous faire un appel à l'ordre. Et c'est ici l'occasion pour moi, JR, d'interpeller nos élus du peuple. Mais que font-ils finalement, nos députés? J'ai entendu certains auditeurs ici parler de l'indépendance,
la souveraineté.
Ils n'ont pas tort. Mais nous avons toutes les institutions démocratiques dans notre pays. Il y a le Parlement pour éviter l'anarchie. Le Parlement, c'est l'œil, c'est pratiquement la parole des citoyens. Mais que font-ils exactement ces gens-là? Ce genre de problèmes, par exemple, votre Parlement pouvait interpeller le ministre de la Défense, par exemple,
de la justice.
Demander des comptes.
Et de la justice aussi.
Hein?
Le ministre de la justice.
Interpeller le ministre de la justice, par exemple, lui demander des comptes, au lieu d'attendre que la communauté internationale puisse nous donner des ultimes. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable, JR.
Oui, mais c'est pas tard, ingénieur Mangoyo. Je crois que l'ultimatum court encore jusqu'à on a donné une semaine.
Il peut aussi. Dans un pays où c'est plein d'intellectuels. Nous avons des experts ici. Mais qu'est-ce qui nous manque nous pour juger, instruire ce genre de fait. Vous vous souvenez, hier, je crois que la CPI, si mes souvenirs sont encore intacts, mais c'est la RDC qui a inauguré la CPI. Ça, vous le savez.
Tout à fait.
Hein? Alors, est-ce que vous trouvez ça normal, ça? Alors que nous avons des institutions judiciaires ici qui peuvent bien faire. Nous avons des éminents experts ici, des éminents juristes ici qui peuvent faire le travail. Mais où se trouve le problème, justement? Alors, il faudra que le Parlement puisse éviter, parce qu'on leur paye pour ça. Les émoluments qu'on leur paye, c'est pour permettre d'asseoir la démocratie et vraiment éviter à notre pays ce genre de situation où on interpelle, on fait des ultimatums. C'est comme si on était encore des enfants. 53 ans après l'indépendance, mais quelqu'un est déjà un grand-père ou une grand-mère.
Hein? Voilà, merci beaucoup ingénieur Van Goyo.
Il faudra que nos autorités soient interpellées. Il faut qu'on évite ce genre de choses.
Voilà, donc le Parlement qui ne doit pas
juger ce genre de fractions. Nous sommes capables. Il faut le faire à temps pour ne pas tout le temps discriminer notre pays. Voilà, j'ai ce que j'avais comme.
Voilà, rappelons que le Parlement joue des rôles, hein, en tant que législateur, pour légiférer et aussi procéder au contrôle, hein, de l'exécutif. Je crois que c'est à ce niveau-là que vous voulez que le Parlement puisse travailler du côté contrôle, hein. On est chaque fois de rester dans les lois. C'est bien beau d'avoir des lois, mais il faudrait aussi travailler du côté contrôle afin de pouvoir de doter les pays quand même de certaines, de donner les pays certains crédits par rapport à vos propos. Merci, ingénieur Mangoyo. Héritier, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Oui, bonjour, merci.
Voilà, héritier, votre point de vue.
En tout cas, merci beaucoup pour m'accorder la parole, vraiment. Nous saluons la décision du Conseil de sécurité, mais nous regrettons un peu. Parce que la Conseil de sécurité est allée vite en désordre. Comment? Parce que nous sommes un pays souverain, où nous sommes capables nous-mêmes de nous diriger d'abord tendrement, et puis nous avons notre institution juridique qui joue son rôle correctement, comme tout le monde le fait dans tout le pays du monde entier. Mais nous sanctionner, c'est vraiment nous humilier. Vraiment, il faut que cette communauté internationale puisse revoir ses pensées-là, au sein de cette logique-là.
Merci beaucoup, héritier. Ghislain Mouéou, c'est vrai, bon, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais nous prenons les propos d'ingénieur Mangoyo, qui a parlé du travail qui doit être fait au niveau du Parlement. Donc, c'est pour lui, donc, c'est une occasion, hein, que le Parlement puisse exercer les contrôles sur l'exécutif. Quant à ce, est-ce que vous partagez cet avis? Bon, nous rejoignons également d'autres auditeurs, notamment Christophe, qui est revenu sur cet aspect aussi en évoquant quelques obstacles que rencontre la justice, hein, pour rendre justice en cas de violences sexuelles, notamment les laxismes, la partialité et la complaisance des magistrats du parquet ou c'est du siège. Mais voilà, Ghislain Mouéou.
Je ne pense pas que les magistrats soient complaisants, je ne pense pas qu'il y a laxisme dans les comptes des magistrats. Il est vrai que ça demande toute une procédure. Je suis d'accord avec les auditeurs parce que il est vrai, par exemple, tout dernier auditeur, lorsqu'il parle du contrôle parlementaire. Les parlementaires, ils doivent savoir qu'ils ont reçu mission de part tout simplement la Constitution et des mots d'ailleurs l'indiquent parlementaires. Donc ils parlent. Il y vient, il porte la parole au compte de ceux qui les ont élus. Donc c'est eux qui peuvent, d'ailleurs j'avais salué à un certain moment qu'on devait mettre sur pied une commission nationale des droits de l'homme, tout ça, et la loi par rapport à tout ça. Parce qu'il ne faudrait pas toujours attendre que les étrangers aillent dénoncer ce qui est porté à leur connaissance, alors que nous avons des députés. Et dans ces coins là-bas, il y a des députés qui ont été élus. Et qui, c'est eux qui doivent être au chevet des victimes. C'est eux qui doivent être les premiers à être informés et dénoncer. Parce que je vous ai dit que toutes les fois que le cas sera dénoncé à la justice, ça je vous l'ai dit, monsieur le journaliste, toutes les cas que le cas sera dénoncé à la justice, je vous ai dit que la loi exige à un OPJ, lorsqu'il est tout simplement saisi d'un cas de viol, dans les 24 heures, il doit informer son procureur de la République. Vous comprenez déjà qu'il y a célérité. Donc, ce qui fait que les cas qui ne sont pas portés à la connaissance de la justice, qui se trouvent seulement portés à la connaissance des ONG, lesquelles ONG ne portent pas non plus ce cas à la justice, mais ils permettent de les mettre dans des compilations, envoyées aux nations
Nations Unies, mais quelqu'un qui ne sont pas parfois vérifiés et qui, dont les auteurs ne sont pas identifiables, ça nous met en difficulté. Et on risque de jeter de l'opprobre sur la justice, on risque de jeter de l'opprobre sur les magistrats, croyant que les magistrats ne veulent pas rendre justice, mais les magistrats ne peuvent pas aller statuer sur un vide. Ils ne statuent sur des faits qui ont été portés à sa connaissance. Et ces faits qui ont été portés à la connaissance, est-ce qu'on a porté à la connaissance de la justice militaire ces faits-là? Est-ce que les militaires qui sont au front ont été neutralisés et mis à la disposition de la justice? Si on les a mis à la disposition de la justice, on peut aujourd'hui dire qu'il y a racisme. Mais pour autant que je venais de vous dire ici que la Cour militaire de Kisangani et sur le plan de Abuja en train de travailler sur tous les cas de viol portant à la connaissance de la justice parce qu'il y a des décisions. Et quand la Cour arrive, donc, c'est pour dire qu'on statue au second degré. Et ça se fait partout. Et ce n'est pas que je fais la défense du magistrat, mais je voulais tout simplement que chacun fasse son travail. Nous ne voulons pas que chaque fois que nous soyons de l'extérieur interpellés, lorsque nous sommes, alors qu'à l'intérieur, nous avons des structures qui ont reçu mandat du peuple de pouvoir gérer, de pouvoir exercer un contrôle. Le contrôle ne va pas seulement se limiter à interpeller le ministre parfois pour des cas qui ne nécessitent pas même interpellation ou les motions de censure, mais il faut qu'il y ait des cas, et pour tous ces cas là-bas, on aurait dû mettre déjà une commission, parce que lorsqu'on commençait déjà à les Nations Unies commençaient déjà à parler de ces violations massives des droits de l'homme, moi je pensais que le Parlement aurait dû dépêcher une équipe pour mener des enquêtes et identifier, de sorte que nous ayons aussi de notre côté à nous.
Voilà, une idée.
Que nous ayons aussi les renseignements nécessaires, parce que nous risquons aujourd'hui de nous retrouver seul contre une seule parole qui est des Nations Unies. Donc le rapport des Nations Unies qui va affronter toute une république de 60 millions de Congolais. Et parce que chez nous, on n'a pas mis sur pied une commission qui devait aussi nous présenter son rapport. Moi, je pense que, puisqu'on a fait ça, on a traîné le pas, il ne revenait pas à nos magistrats d'aller créer une commission. Donc, il y a des personnes qui ont été élues, qui ont cette obligation-là, pouvoir créer des commissions, aller vérifier si les allégations de la Nations Unies, parce qu'avant que ça soit porté au niveau supérieur. Ça a été dit en interne ici par rapport
à la représentation
de la société. Donc, pour dire que je considère ça comme une occasion pour que rappeler à tout celui qui a une parcelle de pouvoir ou une portion de pouvoir qu'il sache faire son travail dans les limites de la Constitution. La Constitution a réglé cette question. Les magistrats n'attendent que les faits soient portés à leur connaissance. Dès que les faits sont portés à la connaissance des magistrats, les magistrats rendent des décisions. Et il ne faudrait pas qu'on nous apporte des faits qui ne concernent pas des éléments suffisants de preuve.
Voilà, Gisèle Mouéou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes magistrat du parquet, disons, de grande instance de la Gombe. Merci, à la prochaine. Merci à tous aussi d'avoir participé à ces débats. Nous disons merci également à Paul Badianiam, à Berry Franquin Luchaka, à Pierrot et la Mégie, ainsi qu'à Titi Poutou qui ont réalisé cette émission supervisée par Ben Kabamba. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, donc, vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net.